Dem.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Ludovic Auger. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi, ce soir, Ingrid Luc-Egan, Mathilde Villeneuve, Lucille Como et Fabrice Bousteau. À notre affiche, Bernard Venet, rétrospective 2019-1959, c'est au Musée d'art contemporain de Lyon. Martine Franck, exposition à découvrir jusqu'au 10 février à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Il y aura un coup de cœur d'Ingrid Luc-Egan, mais pour savoir pour qui son cœur bat, vous attendez un petit peu, vous le saurez plus tard. Et puis un petit salon de Lucille Como autour de ce que les ventes aux enchères font à l'art contemporain. Ça va être un lancement comme ça, je sens que vous allez m'écrire tout à l'heure et que j'aurai du mal à lire. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Pig de Mani Aghighi qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et nous ouvrons cette dispute avec un livre qui passe au-dessus de ma tête, donné par Fabrice Bousteau à Lucille Como. Mais on va se rendre au Musée d'art contemporain de Lyon pour y découvrir l'exposition que cette institution consacre à Bernard Venet, flashback 1959, à bout de souffle, va bientôt sortir sur l'écran, et un jeune homme, lui, cherche à retirer toute charge d'expression contenue dans l'œuvre pour la réduire à un fait matériel. Fin de citation. 60 ans plus tard, le MAC de Lyon propose une rétrospective d'une ampleur inédite à Bernard Venet, dont on va voir que sa pratique est peut-être plus diverse qu'on ne le pense généralement.
C'est intéressant d'avoir ce regard rétrospectif parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation absolue, conceptuellement, sur les travaux du début et ceux d'aujourd'hui. Alors que je parle toujours d'un art qui est autoréférentiel, qui n'a qu'un seul niveau de signification autant que possible. Je ne suis absolument pas mathématicien et je n'étais pas du tout bon en mathématiques quand j'étais tout jeune. Je m'intéresse aux mathématiques uniquement pour ce qu'elles me permettent d'apporter au contexte artistique. C'était pour moi un moyen de sortir de la tradition de la peinture figurative et de la peinture abstraite. Comme mon intérêt réel en art, c'est de poser des questions, de voir jusqu'où on peut pousser les limites, eh bien, je m'apercevais, lorsque j'ai commencé à faire ces œuvres-là, que j'étais dans une direction qui était tout à fait nouvelle et j'ai décidé de l'explorer au maximum.
Voilà comment Bernard Venet parle de lui-même, mais là, vous allez parler de lui. Mathilde Villeneuve, pour commencer, on va au MAC à Lyon, un imposant musée. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir encore cette exposition. Ça prend combien d'étages? Combien de niveaux?
3, je crois.
Parce que la totalité du musée, ouais.
C'est
ouais,
quand même toujours un...
C'est immense.
Déjà de savoir qu'est-ce qu'on donne comme espace à un artiste pour... Alors, certes, alors, Bernard Venet, il faut de la place.
Il faut de la place. C'est une très grande exposition rétrospective qui se fait à rebours de sa chronologie. On commence par la fin. Bernard Venet, moi, je m'y étais jamais vraiment intéressée.
Pour quelle raison, tiens?
Parce que, pour des raisons qui se confirment, donc je vais développer en même temps.
D'accord, si vous voulez.
J'avais du mal à cerner son œuvre, je ne connaissais pas très bien. Je connaissais de lui, finalement, ce qui est le plus connu, c'est-à-dire ces grandes sculptures herculiennes, une sorte d'œuvre assez rigide, des sculptures massives, poids lourds, en acier plié, qui s'inscrivent beaucoup dans l'espace public. Mmh. Il a répondu à énormément de commandes publiques. Et on imagine derrière toutes les grosses machines qu'il faut pour pouvoir et produire, et plier, et installer ses œuvres. Donc une œuvre vraiment qui travaille par ajout, qui prend de la place, qui laisse des traces, et à laquelle je n'étais pas vraiment sensible pour toutes ces raisons-là. qui voilà se confronte vraiment à l'architecture, qui quand elle se retrouve à l'intérieur du musée me semblait un peu étriquée, manquée de souffle. Alors j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres choses et je vais peut-être aller directement vers ce qui m'a un peu plus plus, qui sont ses toutes premières œuvres. Et alors là, j'étais complètement étonnée.
Donc la
parce
toute
que
fin de l'exposition.
La toute fin de l'exposition, je fais un pont.
Ouais.
Qui sont presque, pas contradictoires, mais en tout cas vraiment, on va dire en partie à rebours de ces œuvres poids lourds que je viens de vous décrire. Alors, il y en a certaines... Il y en a des différentes. Il y a ses premiers cartons aplatis sur lesquels il coule de la peinture noire et la forme se déploie sur le carton en fonction de la gravité, simplement. Il y a ce tas de charbon très simple, sorte de ready-made.
C'est une précision, les premières peintures, c'est pas de la peinture noire, c'est du goudron.
Oui, du goudron.
Exactement. C'est très important pour l'appréhender, puisqu'il prend un matériau entre guillemets brut.
On parle sous le contrôle de Fabrice Bousteau, attention.
Oui, je vais faire très attention.
Alors, série de Beaux-Arts sur ces deux expositions,
parce qu'il y
a une deuxième au MAMAC de Nice.
Il travaille avec des matériaux, en effet, de nécessité, des matériaux qui sont pas chers, qu'il a proches de lui. Il y a d'ailleurs des peintures aussi noires qu'il fait avec ses pieds, un peu je pense en écho au collectif japonais Gutai qu'il avait découvert à l'époque. Donc il pousse comme ça la peinture dans ses retranchements, la peinture ou le goudron, la matière noire qui devient donc ce tas de charbon qui ressemble à une sorte de ready-made du Champien, modulable à dimension variable en fonction de l'espace où il se situe, proche des questions aussi de l'informe de Robert Maurice. Et puis, il y a une dernière œuvre que je vais raconter aussi qui m'a bien plu. C'est quand il est à la Johnson Church Theatre en 1968, donc le haut lieu de la post-moderne dance, où Donna Halprin, où il y a Simone Forti, Von Reiner, des happenings de l'époque. Là, il propose une conférence de trois scientifiques, puisqu'on le développera plus tard, mais il était très, en effet, féru de sciences et de mathématiques en particulier. Trois conférences qui se passent conjointement, en même temps, face à un public totalement ignorant des sciences. Donc, l'effet de saturation de la langue et d'une langue inconnue pour le public présent.
On verra pourquoi ça trouve grâce à vos yeux davantage, Mathilde Villeneuve. Fabrice Bousteau, qui brûlait de parler de Bernard Venet, qui a apporté déjà une précision utile. Est-ce qu'il faut appréhender le parcours dans l'ordre souhaité, le rebours déjà, ou est-ce qu'il faut peut-être partir par la fin? Comment vous l'avez-vous appréhendé, cette exposition?
Alors le parcours, il est fait, en fait, entre guillemets, presque pour rassurer le visiteur, puisque on rentre par les sculptures monumentales de Bernard Venet, de Bernard d'ailleurs
Sandé
à la fin de Bernard, puisque très tôt il était à New York, il a marqué profondément, il était accueilli, soutenu par Armand et par beaucoup d'artistes de la communauté américaine, et donc il a supprimé son D pour pas qu'on dise Bernard. Voilà. Ce qui est intéressant quand on arrive justement dans cet espace, c'est étonnant, c'est des pièces qui sont faites plutôt pour l'extérieur. Et moi, je trouve que bizarrement, elle marche. Surtout ce qui m'a étonné, c'est des œuvres que je connaissais pas, qui s'appellent les Gribes, qui sont des œuvres très récentes, où on a l'impression un petit peu d'une sorte de gribouillis, comme ça, quand vous prenez votre stylo et vous faites un gribouillis noir en métal. Et ça, en fait, bizarrement, c'est très beau. Ça m'a même fait rappeler quelque chose d'assez étonnant. Vous connaissez sans doute cette série de Bertrand Lavier, Walt Disney Productions, où il reprend dans la bande dessinée Mickey et Minnie qui vont au musée, bande dessinée réalisée dans les années 40, où on voit des caricatures, des sortes de stéréotypes d'œuvres d'art. Eh bien, en fait,
Bertrand Lavier les a réalisés en vrai.
Voilà. Oui. Alors, Bertrand Lavier les a réalisés d'après la bande dessinée. Mmh. Et là, on a l'impression quasiment que Bernard Venet a copié les œuvres dans Mickey. Mais c'est très étonnant. Je les ai trouvées très, très, très fortes, ces œuvres. Après, donc, effectivement, on accède aux périodes que l'on connaît moins de Bernard Venet, avec notamment une série que je trouve très, très, très belle. Qui est cette série faite dans les années 60 également, qui est une série sur des cartons peints avec de la peinture industrielle automobile, et dont Bernard Venet explique que cette série, imaginons, elle est en jaune, elle est en rouge. Une fois que vous achetez cette œuvre, vous pouvez la repeindre quand vous voulez, de la couleur que vous voulez. Donc l'idée, c'est en permanence que l'œuvre d'art vous appartient. En fait, dans cette exposition, le fil rouge permanent, c'est d'essayer d'expliquer que Bernard Venet est un artiste conceptuel depuis le début de sa carrière, avec effectivement ce tableau en goudron, le tas de charbon où c'est quasiment une sorte de ready-made. Jamais est utilisé le terme de ready-made dans les propos et les écrits théoriques de Bernard Venet, ni dans ceux du commissaire de l'exposition Thierry Raspail. Et alors qu'en fait, en définitive, moi je trouve que, et d'ailleurs l'exposition de Nice s'appelle Les années conceptuelles 1966-1976. Je trouve qu'en définitive, c'est tout sauf un artiste conceptuel. On voudrait nous expliquer en permanence que c'est un artiste conceptuel et c'est un sculpteur. Le pire dans cette exposition, ce qui marche très très mal, c'est qu'on vous explique toutes sortes de relations très compliquées de Bernard Venet avec les mathématiques, avec la physique. Et en fait, qu'est-ce que fait Bernard Venet avec les mathématiques? Même moi, au début, je comprenais mal ce qu'il faisait exactement. Il prend des formules mathématiques ou des textes mathématiques, il les reproduit in extenso sur un tableau, donc il fait un ready-made de théorie mathématique. Et ça pourrait presque coller, sauf que quand il le fait sur des fonds de couleur, alors là, ça devient un petit peu kitsch et tellement décoratif et tellement à l'opposé d'une idée du conceptuel. Donc cette exposition, entre guillemets, j'irais dire qu'elle met vraiment à mal cette idée que Bernard Venet soit un grand artiste conceptuel, à l'image des Américains, etc., etc. Par contre, je pense que c'est un bien meilleur sculpteur que ce que je pensais et j'étais assez ravi par ses sculptures en définitive.
Bon, alors troisième regard, celui d'Ingrid de Kegan qui a beaucoup opiné.
Alors justement, moi j'étais ravie parce que je suis rentrée totalement par un autre versant de Bernard Venet qui serait plutôt son rapport à l'écriture, qui est quelque chose qui est assez peu présent. Mais c'est vrai qu'il y avait la maison d'édition Jean Boite qui avait publié un petit livre de ses poèmes en 2017, qui s'appelait Poétique, avec un point d'interrogation, et voilà, qui publiait une somme de 248 poèmes qu'il avait jamais publiés sur forme papier. Et effectivement, moi, je suis rentrée dans l'exposition plutôt par le milieu, puisqu'il y a cette période où il arrive à New York en 1967 et il rencontre tous ces artistes minimalistes, donc effectivement, qui sont des sculpteurs, qui sont Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Smithson, Michael Heiser. Et lui, il produit à ce moment-là, en 1967 jusqu'à 1969, une série en fait où il va prélever des textes imprimés. Donc des textes imprimés qui ne parlent de rien, c'est-à-dire ça peut être les chiffres de la bourse qu'il va imprimer dans une série qui s'appelle High and Lows, ou ça peut être également quelque chose qu'il prend dans Le Monde, qui sont la carte de météorologie. Mmh. Puisque en 1969, on imprimait encore la météo dans le journal du jour. Et du coup, je trouve ça vraiment assez beau qu'il développe une espèce comme ça d'écriture sans écriture, quoi, une poésie qui serait purement visuelle. Et lui parle de ça aussi en rapport avec les mathématiques comme une autre manière de peindre le paysage, mais vraiment en le réduisant à des données objectives. Et je pense que cette idée-là de réduction, bizarrement, est quelque chose qui porte toute cette expo qui pourtant est quand même assez massive et assez terrestre.
C'est-à-dire que les autres extrémités, enfin les extrémités, vous qui êtes rentré par le milieu, vous ont moins convaincu.
Oui, je trouve que c'est déjà plus convenu, hein. Même le goudron, tout ça, c'est un peu, ça me paraît un peu participer de la mythologie de l'artiste romantique, qui engage son corps, qui se vautre un peu dans ces morceaux de détritus. Parce que Bernard Venet, il y a quand même ça, c'est une figure comme ça, très, très masculine, très droit dans ses bottes, quoi. Et je le trouve le plus beau, justement, quand il s'éloigne de la matière et de ce rapport à la terre et à la gravité qui est très présent chez lui.
Alors, avant de relancer la discussion, en précision, il y a quand même des journaux qui publie chaque jour des cartes météorologiques, précisons-le quand même, les quotidiens qui font ça. Mais c'est vrai que Bernard Venet, pas dire qu'il soit absolument aimé, apprécié, en tout cas du milieu de l'art français, J'ai pas fait le sondage pour savoir à l'étranger quelle était la vision qu'on avait de lui. Or, il est effectivement quand même très présent. Moi, je me souviens, voilà, les premiers contacts, c'était dans la bonne ville d'Épinal, dont Philippe Séguin était député-maire. Et je me rappelle, dans les 90, il y avait des Bernard Venet à chaque carrefour de cette ville. J'imagine qu'ils y sont encore. C'est quoi le problème entre Bernard Venet et le monde de l'art? Tiens, Fabrice Bousteau, pour commencer ce tour de table.
Je crois que c'est justement... ce faux discours prétentieux de se présenter comme un artiste conceptuel, il y a un mot fabuleux qui est mis dans le catalogue de l'exposition qui est en cours de réalisation, mais j'ai lu le texte. Il rencontre Marcel Duchamp quand il a 26 ans à New York, et il montre à Duchamp des photos, alors qui étaient des photos de noir sur noir, et il lui dit aussi qu'il a exposé, qu'il a réalisé une œuvre qui est un enregistrement de la conférence d'un physicien. Et Marcel Duchamp lui dit « Mais alors, vous vendez du vent ?» Il prend un crayon, Duchamp prend un crayon et écrit sur son journal « La vente du vent est l'event », donc il fait un jeu de mots, « de Venet ».« La vente du vent est l'event de Venet ». Exactement, un grand mot d'esprit à la Marcel Duchamp, mais ça veut donc bien dire, et d'ailleurs, Bernard Venet dit « Je l'ai mal pris au départ et maintenant je pense que c'était une vision ». Non, non. C'est-à-dire que ce n'est pas un artiste conceptuel et on essaye de... Et c'est pour ça qu'il y a un divorce avec la critique d'art. Et en définitive, moi qui n'ai pas été très souvent attaché à ces sculptures, je pense que c'est un très grand sculpteur. Mmh. Et que justement, encore un élément sur cet élément du discours conceptuel, il cherche à faire le, entre guillemets, une forme de zéro de la peinture, du zéro de l'intervention, du zéro stylistique. Il invente un thème comme quoi son œuvre est noménique en reprenant voilà, donc tout est sur le zéro, voilà. C'est faux, parce que quand ces sculptures qui sont les plus réalisées, comme les gribes, c'est un choix de couleur, c'est un choix de dessin, c'est la même chose pour les gigantesques sculptures, quand elles fonctionnent, c'est parce qu'elles sont conçues comme un vrai travail de sculpteur.
Mathilde Villeneuve, sur le désamour.
Je pense que oui, il est perçu comme... Alors il y a peut-être en effet un problème de discours faussé, qu'il est perçu vraiment comme un artiste institutionnel, mais que je crois mon désamour vient avant tout du système clos dans lequel se retrouvent ses œuvres. C'est-à-dire que quand il fait un dessin de préparation d'une sculpture, elle dialogue avec son exécution en volume. Quand il fait une toile triangulaire, elle porte l'équation mathématique qui l'a fait être. Quand il fait, mais il y a aussi un problème de manque de fragilité, quoi. C'est un peu ce que Ingrid Luquet disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il fait, en effet, ces lignes indéterminées, ces gribouillis qui déploient soit en grand, en tableau, soit en bois, soit en acier. Le problème, c'est qu'il le fait dans une facture qui est, elle, extrêmement rigide. Donc, c'est comme s'il fermait, rigidifiait tout.
Ingrid, pour
finir. C'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment lui, en fait, qui est aussi dans cette posture d'artiste maudit. Enfin, il y a quelque chose de très
sisyphéen, en fait. Maudit.
Voilà, c'est Sisyphe qui porte le monde sur ses épaules ou le tas de charbon sur ses épaules, quoi. Il y a quand même quelque chose où... C'est pour ça qu'on a envie de le tirer tellement vers autre chose, quoi, de le voir imprimé en poésie, de sortir un peu tout ça, parce qu'on a l'impression que c'est une œuvre qui ne tient pas si lui il est pas là pour la porter sur ses épaules viriles.
Bon,
et c'est et sur ses épaules viriles et sa capacité incroyable, c'est un homme d'une séduction absolument fabuleuse. Un homme de 78 ans qui a une énergie dingue, qui est très beau. C'est quand on rencontre Bernard Venet, on regarde toujours son œuvre différemment. Vous savez, c'est cette
force. Faut pas fréquenter les artistes.
Ah, c'est ça.
Il gagne à être connu. C'est la conclusion de Fabrice Bousteau. Concernant Bernard Venet, alors deux expositions. Là, on a davantage évidemment parlé de celle du MAC à Lyon, Bernard Venet rétrospective 1959. C'est jusqu'au 6 janvier. Il y a un catalogue édité pour l'occasion aux éditions Dilecta. L'autre exposition en cours, MAMAC à Nice, Bernard Venet, vous l'évoquiez, les années conceptuelles 1966-1976. Ça, c'est jusqu'au 13 janvier. Également un catalogue associé, également chez Dilecta, et toujours chez le même éditeur, alors pas encore la poésie, mais des textes autour de Bernard Venet. Bernard Venet Texte, ça s'appelle, l'anthologie de 50 textes sur les œuvres de Venet depuis 61. Et puis, ça n'empêche pas la liberté de parole, hein, hors-série de Beaux-Arts Magazine sur ces deux expositions. À suivre dans la dispute, Martine Franck, un coup de cœur et un petit salon.
La dispute, France Culture. Ne la porte.
Suite de cette dispute art plastique avec la Fondation Henri Cartier-Bresson, dont on a si souvent parlé dans cette émission, le plus souvent de façon élogieuse. Après 15 années passées du côté de Montparnasse, la Fondation inaugure un nouvel espace, a inauguré 79 rue des Archives. C'est l'exposition consacrée à Martine Franck qui inaugure l'espace. Agnès Cyr en est bien sûr la commissaire de cette exposition, coproduite avec le Musée de l'Élysée de Lausanne, où elle sera présentée au printemps, avant d'être accueillie pour l'été au FOMU. On va écouter Martine Franck pour voir cette séquence dans l'émission de France Culture Photoportrait en 1994.
C'est vrai que j'ai commencé la photographie peut-être parce que j'étais très timide, parce que je ne savais pas comment m'approcher des gens, je ne savais pas comment leur parler. Et la photographie pour moi était un merveilleux prétexte, un moyen de rentrer en contact avec les gens, d'avoir une fonction, d'être présent dans les événements et de me sentir finalement à l'aise tout en restant un petit peu à l'écart. Au départ, quand j'ai commencé à photographier, c'était en mai 68, donc évidemment j'étais très impliquée avec tout ce qui se passait dans la rue. Donc je photographiais les manifestations, les usines, la Sorbonne, le théâtre. Ça a été vraiment mes premiers reportages. Mais par contre, mes premières commandes, c'était plutôt des portraits. J'ai travaillé pour le New York Times, pour Vogue. On me demandait des portraits d'écrivains, de peintres, de sculpteurs. Je pense que c'est ma formation qui fait que je suis attirée par les gens qui créent.
C'était Martine Franck. Martine Franck qu'on vient d'entendre, c'était dans une émission de France Culture de 1994. Fabrice Bousteau, plutôt que de consulter votre téléphone, est-ce que vous me parleriez un peu de ce nouveau lieu de la Fondation Henri Cartier-Bresson et de ce qu'on y voit en ce moment, à savoir l'œuvre de Martine Franck? Il était temps d'ailleurs.
Très beau lieu, très agréable, une belle scénographie. J'ai beaucoup aimé les murs, vous savez, sont une sorte de fond vert d'eau. Mmh. C'est très agréable. Martine Franck.
Ouais.
Je vais me faire assassiner ici parce que...
Allez savoir.
Je pense que c'est très joli. Ce sont des jolies photos en noir et blanc. C'est de la photo bourgeoise. Elle n'a pas le talent de son mari. De Henri Cartier-Bresson. Elle n'a pas le talent de toute cette génération d'hommes, malheureusement, avec très peu de femmes photographes. J'étais, pour donner un exemple, je connais très très bien l'Inde, je connais bien le bouddhisme. J'étais très marqué par la pauvreté de ces photographies sur l'Inde et le bouddhisme, en comparaison avec un photographe bien évidemment d'une autre génération, qui est Mathieu Ricard. On ne sait pas que Mathieu Ricard est photographe, mais à Arles, il avait présenté une série de photographies du Ladakh, qui était extraordinaire. Une texture dans la matière de la photographie folle, une composition, on a l'impression, de tableau d'histoire. Eh bien là, franchement, quand on regarde les photos, j'ai essayé de chercher quelles étaient les photos iconiques de Martine Franck. J'en ai trouvé très peu, alors j'en ai 7-8. Celles qui peuvent être un tout petit peu iconiques sont en général les portraits d'artistes qu'elle a réalisés. Où là, parfois, il y a quelques photos qui sont intéressantes. Il y a une photo qui est un peu iconique de Martine Franck, justement, sur le Tibet, qui est un prêtre Rinpoché où il y a une colombe qui lui arrive sur la tête. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment de la photographie jolie, bourgeoise, bien faite, mais sans génie du cadrage, sans génie de la matière. D'ailleurs, elle travaille beaucoup, notamment dans les 15 dernières années ou les 20 dernières années, avec un appareil en autofocus, en argentique, mais en autofocus. C'est vraiment une exposition qui m'a désintéressé assez rapidement. Je me suis ennuyé. Mmh. J'ai trouvé que c'est une peinture ennuyeuse. C'est une femme remarquable, engagée pour la cause féminine, engagée pour les exclus, quels qu'ils soient, dans le monde entier. C'est une très belle femme, physiquement et intellectuellement, c'est certain. Mais est-ce que c'est une grande photographe? J'en doute vraiment.
Bon, après cette introduction de Fabrice Bousteau, Ingrid Luc-Hegel, qui opine encore.
Ouais, mais alors du coup, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que, bon, effectivement, on est dans une posture d'artiste qui est totalement l'inverse, mais qui pêcherait plus justement par cette mise en retrait dont elle est elle-même consciente. Enfin, on lit dans le texte d'expo, il me semble, qu'elle avait conscience d'avoir photographié toute sa vie à l'ombre du grand arbre. Et effectivement, il y a pas mal de reportages en Irlande, notamment dans les années 90, qui sont assez beaux. Mais c'est pas du photojournalisme. Elle cherche comme ça, elle a une recherche assez bouddhiste, dès le début de sa vie, avant même de le devenir, de l'instant parfait. Elle cherche la condensation. Et c'est vrai que ces cadrages sont tellement parfaits qu'on oublie, même quel est le sujet derrière. Du coup, je serais assez d'accord pour dire qu'effectivement, les portraits d'artistes sont les plus beaux. Le portrait de Foucault est très beau par ailleurs, mais effectivement, c'est d'une perfection tellement aboutie que ça dégage pas grand-chose. Et je pense effectivement que la scénographie, on n'a pas parlé, mais qui classe les paysages, qui classe les scènes d'usine, ça ajoute pas grand-chose non plus de plus vivant à ces photos-là. Bon. Après, ce qui est assez intéressant, c'est justement dans les scènes, ça commence par des scènes d'émeute de mai 68, et on a une esthétique qui est à l'inverse de tout ce qui se pratique aujourd'hui. On parle tellement de riot porn, de pornographie de l'émeute, où on cherche effectivement des images comme ça qui pêchent par l'effet inverse, hein, mais qui sont aussi, qui cherchent des symboles. Je pense à cette photo du Palestinien qui est avec un drapeau comme ça, qui reprend la composition de Jéricho. Là, pour les gilets jaunes, on a plein de masques, tête de mort sur un appareil qui brûle. Effectivement, bon, c'est deux postures comme ça qui esthétisent la rue et le réel, mais... dans un sens ou dans l'autre, qui pêche par excès. Elle pêche par excès aussi.
C'est même flagrant. Sur 68, c'est là où c'est très 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 décevant. Ce sont des photos d'une très grande banalité par rapport aux photos qu'on a vues, par exemple, à l'exposition fabuleuse qu'avait fait la BNF il y a quelques mois en hommage à 68. C'est vraiment... On se demande qu'est-ce qu'elle a vu de 68.
Ouais, là, c'est une rétrospective.
Et 68
aussi,
est toujours cadré pareil.
Cette première exposition à la Fondation. Mathilde Villeneuve, est-ce qu'elle a davantage trouvé grâce à vos yeux?
Tout à fait. Moi, je vais plutôt la défendre. J'ai trouvé. Alors, pour répondre à différentes choses, il y a d'une part le fait qu'il y a moins de femmes, etc., que des grands hommes à l'époque photographes. J'ai aussi beaucoup entendu dire Martine Franck à quel point Magnum était misogyne et que ça n'avait pas été facile de rentrer. Elle était d'abord associée pour ensuite devenir membre et qu'il fallait vraiment faire patte blanche et que c'était pas simple. Donc je à qui est la faute, c'est pas. Je pense que c'est aussi très très contextuel. Peut-être qu'elle est en effet pas une photo reporter. En revanche, je trouve que ces portraits d'artistes, écrivains, mais aussi de personnes âgées, parce qu'elle a photographié pendant toute sa vie des personnes âgées anonymes dans les hospices ou chez eux, dans leur intimité, sont très émouvantes. Je trouve qu'elle a un regard où elle va, c'est vrai, capter toujours beaucoup plus l'espièglerie, l'optimisme, et en même temps, ça fait du bien d'avoir un peu foi en l'humanité, notamment aujourd'hui. Je dirais pas que c'est forcément l'artiste engagé. Elle fait pas n'importe quoi non plus. Elle couvre pas tous les pauvres de cette planète. Elle va, il y a les personnes âgées qui sont en effet marginalisées. Il y a son intérêt pour le bouddhisme et les moines tibétains et donc les tibétains en exil en Inde. Elle fait pas n'importe quoi. Je pense qu'elle choisit très précisément ses sujets. Elle passe beaucoup de temps auprès des artistes dans les ateliers pour créer des conditions de disponibilité pour capter justement l'émotion et ne jamais mettre en scène ou forcer une pause. Et ça, moi, je trouve que ça se ressent dans ses photographies. Ensuite, oui, en effet, elle est une photographe plutôt formelle, mais je trouve que ses compositions aux lignes ondoyantes, les courbes, la manière de capter la lumière, de travailler les grilles sont tout à fait magnifiques.
Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, il me semble avoir vu quand même un travail d'une très bonne technicité. Ce qui pêche peut-être, là où ça pêche, c'est qu'il n'y a pas une originalité. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, difficilement reconnaître une photo de Martine Franck par rapport à un autre photographe, alors qu'au contraire, il y a quand même, ça le confirme d'une certaine façon, il y a beaucoup de clichés qui ressemblent c'est un peu à la manière d'eux à chaque fois, selon le type de scène en Irlande, ça va ressembler à un tel. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça de quelqu'un qui connaît très bien ce qui se fait dans son art et qui connaît ses classiques et ses contemporains pour les fréquenter, même si elle n'est pas à la bonne place. Et ça, c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus. Mais voilà, c'est un peu à la manière d'eux, sous influence d'eux, pas seulement de son mari.
Il y a une photo magnifique qui est très belle, hein, d'une piscine qui est dans le catalogue. D'ailleurs, je fais une précision, le catalogue réalisé par Xavier Barral est magnifique, le papier extraordinaire, le rendu des photos est très très beau. Il y a une photo magnifique d'une piscine, on retrouve tout le langage de l'Artigue, le principe des ombres. Ouais. Donc à chaque fois, évidemment, il y a un côté à la manière d'eux. Ce qui n'empêche quand même que, quand j'étais voir l'exposition, il y avait beaucoup de monde, c'était à l'heure du déjeuner. J'ai trouvé que les gens étaient très attentifs, très touchés par ces photos et par cette exposition. Ils passaient du temps, beaucoup plus que moi. non, mais il faut le dire. Et il y a quand même quelques photos, j'en ai une de devant moi que je trouve extrêmement forte.
Alors décrivez, tiens, celle que vous avez envie de décrire.
Ça s'appelle l'abbé Pierre au cimetière d'Estainville, c'est une photo du 9 janvier 1994, photo en noir et blanc, évidemment, où on sent une très belle texture, là, justement, entre les différentes ombres, les différents noirs et les différents gris et blancs. Et l'abbé Pierre est avec sa canne, en train de, vraisemblablement, un peu méditer en regardant le sol. On voit derrière lui plusieurs tombes, et on voit une tombe qui est consacrée à Emmaüs, mais on a du mal à lire ce qui est écrit dessus. Et sur...
Lui, il est centré, hein, il est vertical, vraiment, au centre de la photo.
Au centre de la photo. Et ce qui est extraordinaire, il y a au sol un Christ grandeur nature qui est dans les herbes à côté de ce cimetière. Donc cette image est effectivement très 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 forte. Elle est, ça fait partie des images que je pourrais considérer comme une image iconique.
Mathilde Villeneuve.
Il y a deux autres photos. Parce que moi, il y a une des particularités quand même de sa photo que je trouve assez géniale, c'est sa manière de capter dans un même cadre presque comme différentes situations. Je pense à notamment celle avec le cheval en premier plan, allongé comme dans une prairie, avec en arrière-plan presque une zone industrielle, on dirait des montées de grues dans toutes les directions. Je pense à l'autre qui a été fait sur une famille, quand elle avait eu une commande pour aller photographier des familles de pêcheurs à Long Island. Et on voit en premier plan un chien, c'est une scène d'intérieur, avec un chien en premier plan, puis deux gosses qui se regardent, ils sont en train de jouer, puis au fond un autre sur un canapé. C'est presque du collage. Ça donne l'impression d'être des photographies collage. Et moi, je les trouve étonnantes, celles-ci.
Elle a une image, Ingrid Lukagan, peut-être à retenir dans cette exposition.
Non, moi je reste effectivement sur le portrait de Foucault parce qu'on a vu tellement. Et il y a quelque chose. Enfin, je pense que la spécificité de Martin Frank, ça serait dans le regard. Il y a toujours des regards comme ça fuyants qui rejoignent peut-être ce qu'on a dit, mais effectivement, elle arrive à condenser ce moment de repli intérieur et qui est quelque chose d'assez beau chez Foucault parce qu'on le connaît beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus affirmé, et là il est rentré dans lui-même, il se mord un doigt, le regard est pas là, il reste pas grand-chose à part une bibliothèque dont on n'arrive pas à déchiffrer les titres.
Fabrice Bousteau, une dernière image de Martin Frank.
Oui, une dernière image, par exemple, elle a fait un portrait de Balthus qui n'a aucun intérêt, mais par contre il y a un portrait que je trouve extraordinaire, c'est Léonard Fini que l'on voit à son domicile, c'est en 1981. Léonard Fini, l'artiste, a l'air complètement en transe, elle ressemble à une sorte de sorcière complètement habitée, des yeux fous, elle est vraisemblablement en peignoir de nuit, les cheveux complètement agités, tout est très blanc derrière, et elle est en train de regarder de manière vraiment dingue son chat, qui est un chat blanc, et qui, lui, le chat regarde à l'exact opposé, comme s'il était lui aussi complètement dingue en train de regarder le plafond. C'est une image assez fascinante.
Bon, raison d'aller voir quand même d'abord ce nouveau lieu, la Fondation Henri Cartier-Bresson, maintenant rue des Archives, pour cette exposition Martin Frank, elle est jusqu'au 10 février. Je rappelle, l'exposition ira ensuite à Lausanne et à Anvers, et puis cette monographie, il y a pas mal de textes, d'entretiens, et puis beaucoup de photographies, de documents publiés pour l'occasion aux éditions Xavier Barral, qui fait toujours un remarquable travail, coédition évidemment avec la Fondation Henri Cartier-Bresson. Le moment du coup de cœur d'Ingrid Lukegaard qui bat, le mien aussi bat très fort pour Sylvie Fleury. Exposition en ce moment, Palette of Shadows, c'est à la galerie Tadeusz Ropak dans le Marais jusqu'au 5 janvier. Peut-être un aparté parce que on nous écrit souvent sur la page internet de la dispute pour demander mais qu'est-ce que c'est que cette musique de générique, qu'est-ce que c'est de cette musique de générique. En fait, Fabrice Bousteau, vous y êtes pas pour rien parce que c'est la bande originale de la vidéo que Sylvie Fleury a réalisée pour une grande marque dont le logo est 2C entremêlé, donc je ne citerai pas évidemment, avec...
C'est une exposition qui s'appelait Mobile Art.
Mobile Art, et c'est vous qui aviez, qui était le commissaire, je crois, cette série de... Voilà, pour cette marque aux 2C entrelacés.
Oui, c'est ça, c'était une exposition, en fait, qui, pour la première fois, vraiment reliait le monde du luxe avec l'art contemporain, avec 32 artistes du monde entier, et où tout est une œuvre d'art. C'est-à-dire, le sol est une œuvre d'art, du sol au plafond, tout est une œuvre d'art. Et on ne visitait cette exposition qu'avec un casque, avec un parcours très individualisé, avec la voix de Jeanne Moreau et la musique d'Aphex Twin.
Et il y avait donc cette vidéo de Sylvie Fleury avec les She Devils on Wheels.
Où Sylvie Fleury, en fait, filme avec une des caméras les plus sophistiquées du monde et elle montre des bikeuses qui ont l'air un petit peu comme dans Chapeau Melon et bottes de cuir, un peu comme ça, très sensuelles, très sexe, et qui arrivent avec des guns et qui tirent sur les sacs de cette marque qui les fait exploser comme si elle détestait
la consommation. En ultra ralenti. En ultra ralenti. Ces sacs explosés. Voilà, donc si vous cherchez Sylvie Fleury, on peut voir la vidéo sur Vimeo, elle est disponible, et vous entendrez, reconnaîtrez la musique du générique de la dispute. Cette introduction faite, Ingrid ?
Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, c'est un coup de cœur évidemment plein et entier, mais c'est aussi un coup de cœur circonstancié qui est à replacer dans le temps. C'est-à-dire que je pense que Sylvie Fleury a en fait beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le monde dans lequel on vit. Elle parle d'identité comme tant d'artistes le font, mais elle le fait sans parler de corps. Et c'est vrai qu'on a comme ça plein d'expos de jeunes artistes où ils nous produisent des momies, des zombies, toute cette génération avec laquelle moi j'ai grandi, hein, des Renaud Gérez, Folkert de Jong qui vient d'être montré à la Galerie Valentin, Raoul de Nieuwes. Et voilà, et Sylvie Fleury, elle fait du coup ses Palette of Shadow à la galerie Tadeusz Ropak, qui sont des énormes palettes de maquillage, mais traitées en tableau. Donc ça réactive toute la tradition du shaped canvas, et ça fait évidemment référence à sa toute première œuvre en 1990, quand elle n'était pas encore artiste, et qu'elle se retrouve à exposer à la galerie Rivolta, avec John Armleder et Olivier Mosset, qui sont donc ces deux énormes artistes suisses qui pratiquent plutôt le monochrome, plutôt la peinture abstraite. Et donc, elle sait pas quoi faire et elle décide de faire un geste pour marquer sa présence, pour montrer quelque chose qui serait à elle, un peu comme un André Cadéré pose ses bâtons. Et donc, elle pose des shopping bags de marque de luxe dans un coin de la galerie. Évidemment, pour elle qui a vécu à New York, ça fait référence à toute la tradition du ready-made, mais c'était aussi une manière, voilà, de s'affirmer par des objets. À la galerie, du coup, Tadeusz Ropak, quand on voit ces tableaux qui sont une série nouvelle dans sa production, il me semble que ça permet de parler non seulement d'identité, mais aussi d'échanges symboliques et de storytelling de toutes les marques de luxe. C'est-à-dire que c'est un peu peut-être le dernier obstacle que le monde de l'art refuse de voir, c'est-à-dire qu'on se construit pas comme ça librement par un pur échange de signes, qu'on se façonne pas son identité avec des perles ou toutes sortes de matières, hein, comme c'est à la mode en ce moment, mais qu'on est conditionné par des systèmes d'échange marchands. Et je pense que cette œuvre-là, qui en apparence est assez futile, et c'est aussi là où c'est intéressant, c'est qu'on lui a beaucoup reproché, surtout en France, de se réapproprier ces codes de féminité qu'une Mona Chollet, notamment dans Beauté Fatale, hein, va qualifier de code d'aliénation de la féminité. Et donc, elle se les réapproprie et elle permet de rentrer justement dans un discours sur le néolibéralisme et sur le storytelling de toutes ces marques-là.
Ouais, on ne regarde pas assez bien la plupart du temps Sylvie Fleury dans le travail. Et
d'une c'est vrai part, que moi je la
hilarant, et d'autre part profond, ce qui est quand même, comme elle d'ailleurs, elle est une des personnes les plus drôles qui soient, et en même temps qui a vraiment des choses à dire, Ingrid. vous le confirmez.
Oui,
ce soir.
Effectivement.
C'est presque une artiste.
Fabrice Bousteau.
Une de ses passions dans sa vie, elle est passionnée par le yoga et surtout le yoga Kundalini. Elle est passionnée également par les chamans. Elle fait depuis très longues années. Et en fait, c'est un peu ça, le principe du chamanisme, c'est d'être à deux endroits en même temps. Elle est toujours à deux endroits en même temps, Sylvie Fleury.
D'ailleurs, je crois que la seule émission que j'ai fait avec elle, c'était en duplex, forcément, puisque on s'est pas retrouvés dans le même studio ensemble. Bon, cette exposition, il faut aller la voir. Et puis la Galerie Tadeusz Ropak fait toujours du bon travail, quand même, même si on n'aime pas forcément tous les artistes qu'elle représente. Cette Palette of Shadows, c'est son titre, elle est visible jusqu'au 5 janvier. Vous avez reconnu la porte d'entrée musicale du petit salon de Lucille Como. Et ce soir, des millions, des millions, des millions.
Et oui, il ne se passe pas ces derniers temps de semaine sans que la presse ne se fasse l'écho de ventes records chez Christie's ou chez Sotheby's. C'est d'ailleurs probablement pour le grand public non initié la seule image que les médias généralistes proposent du marché de l'art, ce qui personnellement ne cesse de m'étonner tant cela m'intéresse peu, de corréler une œuvre qui d'ailleurs souvent est à peine représentée dans les articles en question et une somme astronomique qui ne représente pas davantage. Il y a 15 jours par exemple, de nombreux journaux titraient sur la vente d'une toile du peintre britannique David Hockney chez Christie's à New York, adjugé vendu 90,3 millions de dollars, détrônant ainsi le fameux Balloon Dog de Jeff Koons, vendu près de 60 millions de dollars, lui, en 2013. Dans le cas de la toile d'Hockney, représentant l'artiste debout au bord d'une piscine, regardant un homme nager en dessous de lui, et que le peintre avait vendu lui-même en 72 20 000 dollars, les enchères avaient démarré à 18 millions et 30 secondes seulement après avaient déjà atteint les 50 millions. Il faut dire qu'en dehors de ces événements qui font les gorges chaudes de la presse généraliste, ce qui se passe en ce moment dans les grandes maisons d'enchères est assez remarquable. Si les artistes modernes ont parfois du mal à se vendre, c'est le cas par exemple récemment d'une toile de Van Gogh qui n'a pas trouvé preneur, la courbe de vente d'artistes contemporains s'envole depuis 2008. Il semble que les nouveaux grands collectionneurs, souvent asiatiques, y voient une sorte de valeur refuge, je cite, et que la nouveauté par ailleurs soit devenue un critère esthétique absolu. Il y a quelques jours, une peinture intitulée « Le portrait d'Edmond de Bellamy, intégralement réalisé par un système d'intelligence artificielle à partir d'une base de données de 15 000 portraits classiques, estimé à 7 000 dollars, a finalement été adjugé à 432 000 dollars, à la surprise et au plaisir du collectif français Obvious à l'origine de cette création. Les salles d'enchères résonnent régulièrement de ce type de coups d'éclat. Je rappelle celui orchestré par Banksy il y a plusieurs semaines maintenant. Sa toile Girl with Balloon s'était en partie autodétruite grâce à un mécanisme dissimulé dans le cadre, aussitôt les coups de marteau du commissaire-priseur frappés. On voit donc un peu ce que l'art contemporain fait aux salles d'enchères, beaucoup d'argent déjà. En novembre 2018, près de 2 milliards de dollars ont été récoltés, soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Et puis, ça rapporte aussi une publicité et une légitimité conséquente avec l'affaire Banksy, par exemple. La salle d'enchères est devenue en quelque sorte lieu de création, puisque l'œuvre s'y est actualisée, prenant au passage encore plus de valeur. En revanche, je sais moins ce que ce système-là fait au marché. Est-ce qu'il l'encourage? Est-ce qu'il le standardise? Bref, qu'est-ce que les salles d'enchères font à l'art contemporain?
Ah ouais, j'étais pas loin. Hein. Ben... C'est comme si j'avais lu votre chute.
Vous me connaissez trop maintenant. Arnaud,
non, mais crois. C'est bien. Non, mais pour une fois que j'avais deviné, Mathilde Villeneuve est un rat de maison d'enchères. Non, non.
Non, mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que vous allez dans les salles d'enchères?
Alors, voilà, Mathilde, voilà jamais. Comment commencer. Voilà. Vous n'êtes jamais allé à une vente aux enchères?
Non, jamais. Ça m'intéresse absolument pas.
Ingrid?
Mais moi, j'étais surprise qu'on puisse trimer des ventes aux enchères, en fait. Hein.
On puisse
streamer. Les regarder en streaming.
Ah oui, streamer. Non, j'avais trimé. Je me disais, quel est cet argot que je ne connais pas encore?
Dans les salons.
Oui, on peut trimer, il y en a qui triment, mais qu'on peut streamer. Vous êtes physiquement, personnellement, vous-même, entré dans une salle pour une vente déjà,
Ingrid? Une fois dans ma vie, mais
par hasard.
Je devais être forcée, ouais.
D'accord, forcée. Bon, Fabrice, vous aimez ça?
J'y suis déjà allé et je les regarde parfois en streaming quand c'est un événement intéressant. Je suis pas du tout... Je suis très partagé sur la question des ventes aux enchères. La première chose qu'il faut rappeler, je rappelle tout le temps, c'est que 95% des ventes aux enchères concernent des œuvres de moins de 5000 euros. C'est-à-dire que tous les grands prix dont on parle, voilà. Donc, dès qu'on s'intéresse à l'art, il faut se rendre compte qu'il y a une tonnes de ventes aux enchères qui sont absolument géniales, où on trouve des dessins du 19e, on trouve une tonne de choses absolument fabuleuses à des prix vraiment, vraiment, vraiment pas chers.
Ça
c'est
la majorité.
Envie d'y aller, là. C'est la majorité. Et on trouve, c'est dans tous les domaines, dans le design, dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que font les ventes aux enchères au marché de l'art contemporain,
enfin ou à l'art contemporain,
oui. à l'art contemporain. Eh bien, effectivement, le problème, c'est que le marché a pris le pouvoir du critique et du musée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a le sentiment que l'impact direct de ces chiffres colossaux fait que comment on peut dire que l'œuvre de Jeff Koons est ridicule quand c'est l'œuvre la plus chère du monde. La question qui se pose, c'est moins aux journaux critiques qui là font le travail critique de Jeff Koons. Mais quand vous offrez à Jeff Koons une telle surface d'exposition, que tous les médias en parlent et qu'on considère tout de suite qu'une exposition de Jeff Koons est un événement majeur, rien ne va plus. C'est-à-dire que moi, je me souviens, y compris à France Culture, d'une émission pour l'exposition de Jeff Koons au Centre Pompidou, où j'avais eu l'audace de poser la question à Jeff Koons s'il ne trouvait pas ses prix de ses œuvres absolument obscènes, lui qui est un collectionneur et qui collectionne des œuvres, qui venait d'acheter un boucher pour 2 millions d'euros. Je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la valeur de boucher, etc. Il a absolument refusé de répondre. Et le journaliste qui animait l'émission, à un moment donné, m'a fait comprendre que j'allais trop loin, qu'on n'offusquait pas comme ça, de cette manière, Jeff Koons, même à France Culture.
Ouais, bon. Lucille, comment ?
Mais alors, justement, vous qui ne suivez pas forcément cette actualité-là, le fait que, par exemple, Jeff Koons vale autant quand vous allez voir une exposition, c'est la question que Fabrice Bousteau posait, qu'est-ce que ça fait dans un geste critique ? Enfin, qu'est-ce que ça crée chez les critiques ?
On a l'impression qu'il faut d'autant plus batailler,
Mathilde Luna.
Qu'il faut davantage travailler, qu'il faut affiner d'autant plus notre critique, faire d'autant plus de prospection pour ne pas se laisser happer par ce qui demeure comme ça en surface et qui est légitimé en grande partie, c'est vrai, par le marché de l'art qui détient un monopole bien trop important. Après, je crois qu'il y a... Moi, j'ai l'impression que je suis... Disons que les artistes qui m'intéressent, il y en a quand même très peu qui se laissent manipuler par ce marché de l'art et qui ne produisent à aucun moment en fonction de ce qui pourrait être vendu. D'ailleurs, il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne font même pas partie de galeries, notamment les performeurs ou les vidéastes.
Alors moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est quelque chose qui doit me concerner.
Mais c'est ça.
Et je pense qu'on est dans deux cas de figure très différents. Moi, j'aime beaucoup Jeff Koons, par ailleurs.
C'est
Damien
votre droit.
Aussi. Voilà. Et je pense qu'eux sont vraiment dans une logique où ils intègrent ce paramètre-là à leur œuvre et qu'ils sont dans une espèce d'accélérationnisme un peu des années Frick et Frim 90. Je pense qu'avec Banksy ou avec l'intelligence artificielle, on est dans un autre cas de figure, puisque c'est vraiment le marché qui vient légitimer un peu ces pratiques-là. Et donc, j'ai l'impression que toute cette scène-là, en fait, quand Banksy il fait un geste critique qui dévoile ironiquement les structures de la salle de vente, on parle le langage de la critique institutionnelle. Sauf que le marché, c'est pas l'institution. Et je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un tableau dont on ne sait pas qui est l'acquéreur, qui va jamais être exposé, et donc qui est uniquement validé parce qu'il a été vendu et parce qu'il a été passé par ce système-là, qui de fait lui rajoute une valeur ajoutée.
D'autant que ce tableau, en l'occurrence le collectif Obvious, je trouve que c'est une arnaque absolue, parce que ce n'est pas une œuvre réalisée par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a aucune œuvre au monde qui a été réalisée par une intelligence artificielle. Ça voudrait dire que c'est une machine qui l'a fait elle-même. Et qu'il y a une tonne d'œuvres réalisées avant, aidées par, entre guillemets, la machine, dont pas, notamment le plus important pour moi, qui est Rembrandt 2016, qui est de la constitution d'un Rembrandt juste après la mort de Rembrandt. Enfin, ce serait trop long d'expliquer cette œuvre, mais donc...
Les machines collectent tous les Rembrandts. Voilà. Et fait un Rembrandt nouveau.
Voilà, et effectivement, il y a une manipulation. Et il y a de nombreuses manipulations. Moi, je conseille aux éditeurs de lire ce livre où moi, j'ai été effrayé d'appartenir, ou entre guillemets, au monde de l'art quand j'ai lu La face cachée du marché de l'art de Georgina Adams, qui est une grande journaliste anglaise, qui ne donne que des faits. Et on se rend compte que sur ce marché de l'art, il y a une tonnes de faux. C'est-à-dire qu'on vend dans les plus grandes maisons de vente aux enchères, qu'on a vendu par exemple pour des millions de dollars des faux Rothko à des plus grands collectionneurs américains qui se sont rendus compte 2 ans après. On se rend compte de toutes les manipulations. On se rend compte que des experts, un grand commissaire d'exposition de la Fondation Beyeler a signé des faux. A reconnu. Donc, il y a un ensemble d'éléments. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il faut aller avec un discours du tous pourri, parce que c'est justement du très, 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 très peu de pourri. Mais, et de la même manière qu'on parle de tous ces grands chiffres, et encore une fois, c'est 95% des choses coûtent moins de 5000 euros sur le marché de l'art, et que d'autre part, il y a, d'ailleurs, Georgine Adams dit une phrase très, très importante dans ce livre, elle dit, il faudrait que les gens se rendent compte que la spéculation, ça ne marche quasiment jamais. 95% des œuvres qu'on achète dans une galerie d'art, elles vaudront moins cher après les avoir achetées comment on les a achetées.
Oui, j'étais étonné de l'idée de valeur refuge que vous avez cité tout à l'heure, Lucille Como, c'est vraiment, ça me paraît complètement...
Il y a de la spéculation, voilà.
Mais c'est quand même revendiqué par notamment
beaucoup de collectionneurs. Oui, mais c'est absolument antinomique avec ce qu'est même l'art contemporain. C'est-à-dire qu'effectivement, acheter que ce soit 5000 euros ou 1 million d'euros une œuvre actuelle, c'est quand même faire un pari qui ne me semble pas être une valeur
alors,
refuge.
La valeur refuge, c'est sur les œuvres en général qui coûtent plus d'un million d'euros. Parce qu'en moyenne, gros, les œuvres qui valent très très cher, les études montrent qu'elles ne baissent pas. Elles ont tendance plutôt
pour
à monter.
Pour l'instant.
C'est en dessous.
Pour l'instant. Lucille Como et puis Mathilde. Et
alors, je me demandais si aussi, à l'inverse, parce que là, donc, les grands vendeurs, les grands artistes vendeurs, il y a Hockney, dont on parle beaucoup en ce moment, et Basquiat. Et il se trouve qu'il y a 2 grandes expositions rétrospectives en ce moment. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, une influence des grandes expositions et donc, du coup, de l'institution, pour le coup, sur les ventes aux enchères
de l'institution ou des grands collectionneurs? On parle dès que François Pinault ou Bernard Arnault font des expositions dans leur lieu. On les soupçonne toujours de vouloir faire monter les cotes. Il faut prendre ça en considération, Ingrid Le Kegan.
En fait, cette intelligence artificielle, pour y revenir, c'est vraiment le symptôme du fait que la salle des ventes consacre un goût, quand même, un goût moyen, un goût qui est déjà éprouvé, un goût qui ne prendra jamais de risque. C'est pour ça que même, c'était qui David Hockney, il est vendu si cher maintenant, alors qu'au début de sa vie, il était vraiment, il se considérait lui-même comme un artiste outsider. Et on le voit très bien avec cette intelligence artificielle qui fait une espèce de melting pot de plein de tableaux pour en sortir vraiment la base la plus neutre et la plus grise qui soit. Et je pense effectivement que l'influence, elle est un peu pernicieuse, quoi. C'est-à-dire, c'est une fois que tout le monde a un peu entendu parler de cet artiste-là, que ça devient un investissement un peu safe, en fait.
Sur Hockney, il faut quand même préciser que ce record, c'est un tableau totalement iconique.
Oui, là, pour le coup,
c'est la piscine, et en fait, c'est la reconnaissance de toute l'œuvre de David Hockney, qui arrive. C'est que c'est devenu une telle icône.
Qui ne lui rapporte
on reconnaît
rien.
Un symbole.
Qui ne lui rapporte rien.
Ouais, c'est autre chose. Mathilde Villeneuve.
C'est là-dessus que je voulais revenir, sur le fait que ça ne rapporte rien aux artistes ou peu. Alors, ça dépend lesquels, mais j'avais compris que Banksy, justement, en fait, c'était souvent des œuvres qui avaient déjà été vendues au départ par lui peu cher, qui en fait se retrouvaient et montaient à des millions dans les ventes aux enchères. C'est bien le cas.
Parce qu'il n'a pas beaucoup de Banksy à vendre de toute façon, donc forcément. Et il y a eu des histoires pour des murs qui étaient démontés pour être vendus comme tels sur lesquels il avait peint.
Voilà, il y a très peu de Banksy à vendre et puis d'autre part.
Sinon, il les donne à Central Park, mais ça, il faut être là ce jour-là.
C'est exactement ça, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui critique en permanence le fonctionnement du marché, le fonctionnement des institutions artistiques et que donc en parallèle, il a vendu des œuvres qu'on pensait pas que c'était lui à 60 dollars dans la rue à New York, etc. Ouais. Donc il est tout le temps en train de vouloir perturber ce marché de l'art. Et il le fait pas pour lui.
Ouais. Non, Lucille.
Mais surtout, il est venu valider totalement le plan de com de Christie's, en l'occurrence. Enfin, c'est quand même incroyable cette histoire. Moi, je m'en remets toujours pas. Je l'aime beaucoup.
Pas. C'est vrai?
Oui, j'aime beaucoup cette histoire.
Et Fabrice Bousteau s'en est pas remis non plus.
Écoutez, moi, je suis vraiment un fan de Banksy, que je considère comme vraiment un grand artiste. Après, je pense pas, je connais des gens qui le connaissent très très bien et je les rencontrais, je pense pas du tout que c'était organisé. Le seul problème, le seul doute qu'il y a, c'est que le mécanisme qui était à l'intérieur...
n'a pas été jusqu'au bout.
Voilà, que normalement, toute œuvre, quand elle est sous verre, on doit enlever pour regarder si c'est pas un faux, et ça n'a pas été fait. Mais comme je le disais, les négligences des grandes ventes aux enchères, des grandes maisons de vente, sont courantes au point de vendre des faux régulièrement.
Ouais, donc pourquoi ne pas effectivement être passé au travers sur ce coup-là. Bon, Lucille Como, toujours beaucoup de questions, peu de réponses, mais c'est un peu l'utilité de ce petit salon. Et avant de conclure cette émission, c'est Sarah Dion qui nous rejoint comme chaque soir pour la séquence du jeu de la dispute. Et d'abord nous rappeler la question, Sarah, du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse.
Dans quelle structure a eu lieu le premier festival de Nanterre en 1965? Et la réponse est un chapiteau.
Ça a changé depuis. Parce que ça dit, ils vont être à nouveau sous chapiteau, les travaux... sont au long cours là-bas. On fait gagner ce soir des places de cinéma pour aller voir le film Pig de Mani Aghegui qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Sarah ?
Au cœur de quelle ville se déroule l'intrigue de ce film ?
J'ai bien fait de ne pas le dire dans mon lancement. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et puis bien sûr vous abonner au podcast. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Jean-Christophe Brianchon, Grégoire Leménager, Florent Georgesco. À notre sommaire, L'homme sans ombre. Encore, oui, joie, un nouveau livre de Joyce Carol Oates chez Philippe Rey. Anatomie de l'amant de ma femme de Raphaël Rupert aux éditions de L'Arbre Vengeur. Barcelone brûle de Mathieu David chez Gallimard. Et puis, un coup de cœur de Grégoire Leménager pour Manifeste incertain 7 de Frédéric Pajac aux éditions Noir sur Blanc.